Vous écoutez Ainsi soit-elle.
Salut tout le monde et bienvenue à l'émission Ainsi soit-elle sur CKIA FM. Salut aux gens de l'agité qui nous écoutent. Ce soir, c'est Marie donc à la réalisation et préparation de l'émission. Il y a aussi Marie-Ève qui est venue m'aider pour la mise en onde. Merci Marie-Ève. Ce soir, je vais faire une émission à un seul thème. J'avais envie de parler d'Olympe de Gouges, donc peut-être que vous avez déjà entendu parler. En tout cas, moi, c'est une femme dont j'avais vaguement entendu parler avant. Et c'est vrai que de faire des recherches dessus, ça m'a confirmé l'idée qu'il fallait qu'on en parle quand même. Donc c'était une des premières féministes françaises, finalement, à s'affirmer clairement ainsi. Et puis à travailler pour que l'égalité des sexes se fasse, l'égalité entre les sexes se fasse. Donc je vais aborder plusieurs points tout au long de l'émission. Puis il y aura aussi des morceaux musicaux, des pièces musicales. Il y aura aussi une partie de son testament politique qui va être lu, donc pas par moi, mais par une femme qu'on peut trouver. On peut trouver ce testament-là sur Livre Audio, un site internet. Et puis voilà, donc je vous laisse tout de suite avec une chanson de Brigitte Fontaine qui s'appelle « Je suis décadente ».
Je suis concierge rue de Bussy. Dans mon immeuble, y a que des penseurs. C'est moi que je suis leur égérie. Je fume la pipe et je mange des fleurs. Je suis décadente. Le matin, quand je fais mes escaliers avec mes pauvres jambes avarices, je pense à Sisyphe et son rocher qui retombait dans un précipice. Je suis décadente. Ernest, il veut me faire ma fête. Je lui dis, à quoi bon, très amère. Il me répond, pourquoi pas, c'est bête. J'ai épousé un gars primaire. Je suis décadente. Quelquefois, quand je me sens trop lasse, sur ma porte, je colle un papier. Je mets la concierge et dans l'angoisse qu'il se débrouille pour le courrier. Je suis décadente. Mais le suicide quotidien, ce n'est vraiment pas une vie. Le désespoir, ça n'est pas sain. On s'en lasse et sans les dit. D'être décadente, sentir qu'on n'est rien ici-bas, cela conduit à tous les vices. Fumer de la marijuana, c'est mauvais pour mes rhumatismes. Je suis décadente. Désespoir, j'en ai ma dose. Je vais prendre une place à Passy. Là au moins je serai quelque chose. Et puis j'aurai foi en la vie. Je serai méritante. Je vais avoir un rôle et des devoirs. Je me peindrai plus les ongles en noir. Je mangerai un yaourt tous les soirs. Quand je serai psychiatre, avenue Mozart.
C'était donc Brigitte Fontaine, cette merveilleuse Brigitte Fontaine. Je vous parle donc d'Olympe de Gouges, qui est née en 1748 et morte en 1793. Juste pour vous mettre l'eau à la bouche, c'est après Marie-Antoinette, donc à l'époque de la Révolution française, Marie-Antoinette a été guillotinée. Olympe de Gouges a été la deuxième femme à être guillotinée, en fait, à cette période-là. Donc voilà, vous le saurez pourquoi à la fin de l'émission. Je vais commencer par un petit texte qu'elle écrit, parce qu'en fait, elle a repris la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et elle l'a féminisée. Donc, elle a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Dans un préambule, elle dit, je vais essayer de vous faire une belle lecture. « Homme, es-tu capable d'être juste C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe? Ta force? Tes talents? Observe le Créateur dans sa sagesse. Parcours la nature dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher. Et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux, jette enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée, et rends-toi à l'évidence que je t'en offre les moyens. Cherche, fouille et distingue, si tu le peux, les sexes dans l'administration de la nature. Partout, tu les trouveras confondus, partout ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel. L'homme seul s'est fagoté un principe de cette exception. Bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré, dans ce siècle de lumière et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse. Il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Il prétend jouir de la révolution et réclamer ses droits à l'égalité, pour ne rien dire de plus. Donc voilà, c'est un petit bout de texte qui est quand même d'actualité. Hein. Je pense que c'est assez intense ce qu'elle écrit. Donc c'est ce qu'elle a écrit, hein, puisque vous l'avez bien compris, qu'elle est décédée il y a plus de 2 siècles. C'est ça, moi c'est une femme que ça m'a vraiment inspirée en fait de faire des recherches sur elle, parce que je veux dire qu'au cours de mon éducation en France, j'ai jamais entendu parler d'elle. Dans les manuels scolaires, on n'en parle pas. Je pense que en 1789, donc au bicentenaire de la Révolution française, il y a une historienne qui a fait une pétition en fait pour que son corps soit au Panthéon. Donc c'est là qu'on place les plus grands hommes. Bah d'ailleurs, je pense qu'il y a essentiellement des hommes dans cet endroit-là. Et bon, la pétition est toujours en cours puisque ça avait été demandé à Jacques Chirac à l'époque. Et donc ça n'a pas été fait. Voilà. Puis donc cette femme-là, elle a écrit plus de 70 ouvrages. Elle a écrit beaucoup de pièces de théâtre, des textes politiques. Et puis malgré ça, on n'en parle pas, encore une fois. C'est ça. Donc on va continuer avec une autre petite pièce musicale de Anne de Mortain qui s'intitule « La rebelle ».
Je suis la mauvaise élève qui rêve quand les autres apprennent. Je suis la mauvaise graine qui pousse quand les autres se crèvent. La vie, ça les gêne, surtout quand elle monte aux lèvres, qu'elle a 7 ans et de la sève, à vous faire péter les veines. Je suis pas plus à la vanille que les gars sont au chocolat. S'il faut être con pour être une fille, je ferai tout pour en être pas. J'y ai perdu plus d'une bille, la différence ne paie pas. À 13 ans souvent vacille, se combattit au combat. À présent qu'on me dit femme, je ne sais plus si j'y crois. Je n'ai protégé ma flamme qu'à grand-peine jusque-là. Si je dois m'appeler madame, en échange, est-ce qu'il faudra que je vous donne mon âme? Ou que j'oublie d'être moi?
Oui, donc nous allons aborder un petit peu maintenant les écrits d'Olympe de Gouges, parce qu'en fait, elle a laissé de nombreux ouvrages en faveur des droits civils et politiques des femmes, et aussi de l'abolition de l'esclavage des Noirs, parce qu'à cette époque-là, c'est ça, le code noir était encore appliqué, l'esclavage était vraiment appliqué, la grande partie des richesses de France était liée à la colonisation, et voilà. Et donc, elle s'est quand même élevée contre ça. J'en parlerai un petit peu plus en détail à la suite. Et puis, sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne était vraiment radicale à l'époque, puisque elle considère que les femmes étaient capables d'assumer les tâches traditionnellement confiées aux hommes, et elle demandait surtout que les femmes soient associées au débat politique et au débat de société, donc qu'elles puissent être dans la cité autant que les hommes. Il y a d'ailleurs une phrase très forte dans l'article 10 de sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qui dit « La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune ». Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Voilà. Dans ces écrits-là aussi, elle demande l'instauration du divorce pour donc puis c'est finalement le premier et le seul droit qui a été conféré aux femmes par la Révolution. La façon dont elle écrivait aussi, puisqu'elle a écrit beaucoup de pièces de théâtre, comme je disais, donc qui étaient jouées par les acteurs là-bas. Puis elle a écrit aussi beaucoup de pamphlets, beaucoup de lettres politiques. Puis en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle les imprimait elle-même, puis elle les placardait elle-même dans les rues de Paris. Donc moi, je trouve ça quand même assez intense de se dire que cette femme-là, elle faisait ça, elle voulait qu'on l'entende, elle voulait qu'on la lise, et puis elle se donnait les moyens pour le faire. Pour revenir un peu sur son histoire, en fait, elle s'appelle à l'origine Marie Gouze, et donc elle est née, elle est issue d'une famille modeste, moyenne, petite bourgeoisie, en fait, dans le sud de la France. Sa langue maternelle était l'occitan, donc c'est-à-dire qu'elle a appris le français pour pouvoir écrire tout ce qu'elle a écrit. Et puis, elle est remontée, en fait, elle s'est mariée, donc elle a eu un parcours assez classique au début, éducation traditionnelle, elle s'est mariée, elle a eu un enfant, un fils. Et puis, c'est suite au décès de son mari que, en fait, la vie a un peu changé pour elle, parce qu'elle a décidé de pas prendre un deuxième mari pour élever son fils, et elle a décidé de se prendre en main toute seule. Ce qu'elle a fait, elle est montée avec son fils à Paris. Donc là, elle a fait différents métiers. On dit même qu'elle a été courtisane, qu'elle a eu divers amants qui lui donnaient de l'argent. Donc voilà, il fallait en avoir comme on pouvait. Et puis, à partir du moment où elle a commencé à écrire, elle a changé de nom. En fait, elle a transformé le nom de sa mère, Olympe, pour devenir Olympe de Gouges. Et donc c'est là qu'elle a commencé à écrire à peu près dans les années 1780. Pas 17 ans, 1780, mais juste 1780. C'est ça. Je vais vous laisser un petit peu en musique, le temps de reprendre mes esprits. Et puis on va avec une chanson de Rita Mitsuko qui s'intitule « La sorcière et l'inquisiteur ».
Chambre de torture. Ah, Elle était belle et d'une blancheur laiteuse. On voyait qu'elle aimait être amoureuse. Et sa longue chevelure faisait comme une couverture à peine à voir. Maintenant sale, ah, tu meurs assassine. Sauve ton âme.
Toujours sur les ondes de CKIA FM à l'émission Ainsi squat-elle, où je parle ce soir d'Olympe de Gouges, qui a écrit donc la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1793, donc quelques années après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle a féminisé en fait la plupart des articles et je vais vous en donner quelques exemples. L'article 4 dit « La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui ». Ainsi, l'exercice des droits naturels de la femme n'a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. L'article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune, pourvu que ces manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, les contributions de la femme et de l'homme sont égales. Elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles. Elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie. C'est très féministe comme perspective quand même à cette époque-là. Donc voilà, elle a donc écrit... pour les droits civils des femmes, les droits civils et politiques des femmes. Elle a aussi écrit contre l'esclavage. C'est ça, il y a une pièce qu'elle a écrite en 1784 qui se nommait « Zamor et Mirza ou l'heureux naufrage » qui a été republiée ensuite avec le titre de « L'esclavage des Noirs ». Et en fait, dans cette pièce-là, qui a été écrite au répertoire de la comédie française par la suite, mais que les comédiens ont refusé de jouer sous prétexte que c'était pas tout à fait conforme à ce qui se faisait. Donc en réalité, cette pièce était très audacieuse pour l'époque parce qu'elle critiquait le Code noir. Donc le Code noir, juste pour information, c'est un texte qui a été écrit pour légiférer en fait le statut des Noirs dans les colonies et qui en gros les mettait au même statut que des biens meubles. Donc il y a vraiment beaucoup d'articles et puis qui dit à propos de tout, du mariage, du travail, de leurs enfants, de tout ça. Et c'est assez intense quand on lit ça à l'heure d'aujourd'hui. Puis le Code noir a duré quand même assez longtemps jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Donc en fait, dans ce texte d'Olympe de Gouges, l'esclavage des Noirs, donc elle critique le Code noir et elle donne la parole à des esclaves. C'est un essai manifeste en fait qu'elle reproduit aussi dans un autre texte qui s'intitule « Réflexions sur les hommes nègres ». Je vais vous faire une petite citation, une petite lecture d'une des phrases qu'elle a écrite justement dans « Réflexions sur les hommes nègres ». D'ailleurs un texte clairement abolitionniste qui lui a ouvert la porte de la Société des Amis des Noirs. Donc c'était une société qu'il y avait en France à l'époque qui était justement pour l'abolition de l'esclavage. Et elle a été membre suite à l'écriture de ce texte-là. Donc la citation va comme suit. « L'espèce d'homme nègre, écrivait-elle avant la Révolution, m'a toujours intéressée à son déplorable sort. Ceux que je pus interroger ne satisfirent jamais ma curiosité et mon raisonnement. Ils traitaient ces gens-là de brutes, d'êtres que le ciel avait maudits. Mais en avançant en âge, je vis clairement que c'était la force et le préjugé qui les avaient condamnés à cet horrible esclavage, que la nature n'y avait aucune part et que l'injuste et puissant intérêt des Blancs avait tout fait. Voilà. Tenez-vous le pour dit. C'était donc une partie des réflexions sur les hommes nègres de 1788 d'Olympe de Gouges. Donc en fait, dans tous ces écrits, comme je vous disais, plus de 70 écrits, des pièces de théâtre, des écrits politiques, elle appelle finalement à des réformes politiques, économiques et sociales radicales. Donc elle n'est pas totalement ou extrêmement révolutionnaire, c'est-à-dire qu'elle soutient le roi aussi à plusieurs occasions. Mais en fait, elle, ce qu'elle estime, c'est qu'il faut plutôt faire des réformes dans le pays plutôt que tout brûler et de foutre le bordel. C'est ça, elle ne s'engage pas en faveur d'une révolution sanglante. Mais finalement, les réformes qu'elle prône sont très en avance sur son temps. Elle parle par exemple de la liberté d'expression, de l'égalité des sexes, de l'instauration du divorce, donc de l'abolition de l'esclavage et de la peine de mort aussi. La création d'un impôt sur les revenus des plus riches, donc encore aujourd'hui c'est actuel. La distribution des terres en friche à des paysans ou des coopératives. La mise en place d'un tribunal populaire pour tous, la création de maternités et de foyers solidaires pour les plus démunis. Donc on voit ici que toutes ces propositions sont très novatrices pour l'époque et puis ont mis parfois très très longtemps à se faire donc au cours du XXe siècle et bon, c'est pas encore tout à fait ça. C'est ça, donc c'est sa manière de faire était vraiment de faire ses écrits et de les imprimer, de les publier, de les placarder sur les murs. Et c'est justement dans ce contexte-là, quand elle a écrit un pamphlet intitulé « Les trois urnes », que dans ce contexte-là, je veux dire, une fois qu'elle allait l'afficher, elle l'avait même pas encore affiché, qu'on l'a arrêtée. Et elle a été emprisonnée à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Elle est accusée d'injures envers les représentants du peuple et de publication d'écrits contre-révolutionnaires, donc soi-disant pour soutenir la monarchie. En fait, elle a été condamnée à mort et puis elle a été guillotinée donc la même année. Elle avait été arrêtée en juillet, elle a été guillotinée en novembre. Pendant tout ce temps, elle l'a passée en prison, donc dans des conditions de vie assez terrible, comme on peut imaginer les prisons de l'époque. Et puis, elle avait publié des textes qu'elle a réussi à faire sortir de prison, justement, à cette époque-là, qui expliquent ça. Et elle a été donc accusée, elle est passée au tribunal révolutionnaire de l'époque. Et puis, évidemment, on lui a interdit d'avoir un avocat, elle a fait sa propre défense. Et d'ailleurs, on va entendre un bout tout à l'heure avec son testament politique. Et en tout cas, moi, ce que j'ai retenu de tout ça aussi, c'est que elle a non seulement été victime pendant de son vivant, justement, soi-disant parce qu'elle était, trop féministe ou trop radicale ou contre-révolutionnaire, mais elle a aussi été mise de côté vraiment par la suite. Et quelques-uns des écrits qui ont parlé d'elle, que ce soit au 19e ou au 20e siècle, il parlait d'elle comme une femme exaltée, donc une furieuse qui n'avait pas tout son bon sens. Et certains ont même dit qu'elle était illettrée. Donc je trouve ça quand même assez intense de dire d'une femme qui a écrit plus de 70 ouvrages qu'elle est illettrée. C'est ça. Et d'ailleurs, la Déclaration des droits de l'homme et de la femme et de la citoyenne, pardon, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne donc, qu'elle avait écrite, a été republiée en version complète seulement en 1986. Donc deux siècles après, et ça a été fait par Benoît de Groux. Donc voilà, moi ce que je voulais faire un petit peu avec cette émission sur Olympe de Gouges, c'était réhabiliter ses écrits. Et puis si je vous donnerai des conseils, des suggestions de lecture, peut-être des ouvrages que j'ai trouvés à la bibliothèque ici, donc assez simples. Il y a la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, qui est donc une publication de ses écrits avec les préambules, le postambule. C'est joli comme mot. Et elle avait écrit aussi le contrat social entre l'homme et la femme, donc qui justement prônait le divorce par consentement mutuel et des choses comme ça. Vous pouvez aussi lire un ouvrage de Sophie Mousset qui s'appelle « Olympe de Gouges et les droits de la femme ». Donc là, c'est plutôt une biographie contextualisée, tout ça, de sa vie. Et puis, il y a aussi une partie d'un ouvrage de Julia Kristeva qui s'appelle « Seule une femme », donc il y a quelques pages sur Olympe de Gouges. Mais voilà, ce qu'on peut trouver, c'est pas non plus énorme. Il y a une biographie qui a été faite en 1981 de Olivier Blanc, qui s'appelle Olympe de Gouges, femme de liberté. Et puis c'est apparemment une très bonne biographie, moi je l'ai pas consultée, mais parce que c'est une des premières qui a été écrite et puis qui serait la plus complète. Donc voilà, on va partir peut-être avec une musique, et puis après on va commencer à écouter, j'ai fait une sélection du testament politique, puisque c'est une lecture qui dure 17 minutes, mais j'ai sélectionné quelques morceaux, donc on va écouter ça par la suite. Et là on s'en va en musique avec...
Avec Édith Piaf.
Avec Édith Piaf, mais oui.
Je ne veux plus laver la vaisselle.
Je ne veux plus laver la vaisselle. Je ne veux plus vider les poubelles. Trier le linge, pas de l'hôtel. Brûler mes mains dans l'eau de javel. Car j'ai un amoureux, nom de Dieu. Il mesure 1m80, sans un pouce, rien d'un chien. L'on me dit que c'est un vaurien, mais comme je suis une fille de rien, ça les embête qu'on s'aime bien, mais moi je l'aime bien mon propre rien. Je ne veux plus laver la vaisselle, je ne veux plus vider les poubelles, trier le linge sale de l'hôtel, brûler mes mains dans l'eau de la verre, car j'ai un amoureux, amoureux, nom de Dieu. Il a quelque chose dans le fond de ses yeux, un peu de truc qui fait ses yeux, j'ai l'impression que je monte aux yeux, et que je rencontre mon Dieu. Alors j'y parle de mon amoureux, et il me promet qu'on sera heureux. Je ne veux plus laver la vaisselle, je ne veux plus vider les poubelles, trier le linge sale de l'hôtel, brûler mes mains dans l'eau de javel, car j'ai un amoureux, amoureux, nom de Dieu. Je ne veux plus curer les chaudrons, servir à table, monter le charbon, ça sert à quoi d'être un tuyon? Ça sert à rien, crénom de nom. Puis il a des yeux marrons, et puis je m'en fous, nous aimons. Je ne veux plus laver la vaisselle, je ne veux plus vider les poubelles. Je veux qu'on m'appelle mademoiselle, je me couvrirai de dentelle. Amoureux, amoureux, nom de Dieu.
Olympe de Gouges, testament politique, 1793. Ô divine Providence, toi qui dirigeas toujours mes actions, je n'invoque que toi seule. Les hommes ne sont plus en état de m'entendre. Dispose de mes jours, accélère-en le terme. Mes yeux fatigués du douloureux spectacle de leur dissension, de leur trame criminelle, n'en peuvent plus soutenir l'horreur. Si je dois périr par le fer des contre-révolutionnaires de tous les partis, inspire-moi dans mes derniers moments, et donne-moi le courage et la force de confondre les méchants et de servir encore une fois, si je le puis, mon pays, avant mon heure suprême. Toi qui prépares de loin les révolutions et frappes les tyrans, toi dont l'œil scrutateur pénètre jusque dans les consciences les plus ténébreuses, le crime est à son comble, dévoile ce long mystère d'iniquité, frappe, il est temps. Ou si, pour arriver jusqu'au jour de tes terribles vengeances, il te faut le sang pur et sans tache de quelques victimes innocentes, ajoute à cette grande proscription celui d'une femme. Tu sais si j'ai recherché une mort glorieuse. Contente d'avoir servi la première, la cause du peuple, d'avoir sacrifié ma fortune au triomphe de la liberté, d'avoir enfin donné dans mon fils un vrai défenseur de la patrie, je ne cherchais que la retraite la plus obscure, la chaumière du philosophe, digne et douce récompense de ses vertus. Voyant mes écrits, mes efforts impuissants pour rappeler les hommes à la plus douce des morales, à cette touchante fraternité qui pouvait seule sauver la patrie, je pleurais dans le silence. Un fils qui avait versé son sang pour elle sur les frontières et qui, par un de ces miracles dont toi seul, ô Providence, dirige les bienfaits, m'a été rendu. Arraché de dessous les cadavres et les chevaux de l'ennemi, ce fils croyait dans l'armée française, sacrifié à son vengeance.
Money and I can't get ashore.
Roll, roll, roll and go.
Oh, roll and go.
Roll, roll and go.
We
roll, roll, roll and go. Oh,
roll and go.
Buddy, roll and go. We roll, roll, roll and go.
I spend my money and I can't get ashore.
Roll, roll, roll and go.
I spend my money and I can't get ashore.
Roll, roll, roll and go.
Oh, roll and go.
Buddy, roll and go. We roll, roll.
On vient d'entendre un chant marron de la Grenade. Donc les marrons, c'était les esclaves en fuite. C'était pour faire un petit lien avec ce que je disais tantôt à propos de l'âme de Gouges. Puis on va continuer à écouter son testament politique.
Mais puisque je suis assez heureuse, avant ma mort, pour me faire connaître à mes concitoyens, je vais en peu de mots leur rendre un compte exact de ma conduite et de ma fortune, que les intrigants qui dilapident si éhontément les trésors de la République donnent, comme moi, un tableau exact de leur actif et de leur passif. Et alors le peuple verra clair et saura distinguer ses vrais amis de ses ennemis. En 1788, je possédais encore 50 000 livres. Que j'avais placé dans une maison connue et un mobilier d'environ 30 000 livres. Il me reste en tout 15 000 ou 16 000 livres au plus. On trouvera chez Maumet, notaire, mon contrat de remboursement et le compte exact de 40 000 livres que j'ai dépensés pour la cause populaire. Mes dons dans le grand hiver, mes écrits qui répandirent toute la bienfaisance qui s'opéra alors, mes projets d'atelier public pour les ouvriers, mes impôts volontaires, mes dons patriotiques, mon nom étranger au livre des pensions, aux listes civiles, ma droiture, mon désintéressement, enfin les preuves les plus exactes chez les notaires, dans les procès-verbaux et dans les papiers publics depuis 1788. Tout apprendra, à mes concitoyens, que si je n'ai pas cherché la gloire ni les récompenses, ma conduite n'en fut que plus pure et plus éclatante.
I'm the one.
vous êtes toujours sur les ondes de CKIA FM à l'émission Ainsi Squat-elle. Ce soir, on parle d'Olympe de Gouges et on écoute de la musique variée et diverse. J'étais restée dans les sélections musicales françaises au début de l'émission, mais vous allez voir qu'on va s'éloigner un petit peu et accélérer un petit peu le rythme au fur et à mesure. Et puis, on continue à écouter le testament politique d'Olympe de Gouges, donc un de ses, son dernier texte qu'elle a écrit juste avant de se faire guillotiner.
Attente. En vain, les intrigants m'accuseraient-ils d'être d'intelligence avec ceux qu'ils appellent girondistes. Ils savent trop que je n'ai aucun rapport public ni particulier avec aucun, si ce n'est la conformité des bons principes. C'est la vérité. Et si le Dieu des consciences, tel que je me le figure, est le seul Dieu que les hommes doivent adorer, je verrai un jour cette vérité triompher de l'imposture. Ou si je suis privé de cette jouissance, mes concitoyens, après moi, me rendront justice. Et jamais il n'entrera dans ma tête que les hommes qu'on a voulu envelopper dans une affreuse proscription fussent les complices des tyrans couronnés, eux qui périraient les premiers sur l'échafaud si ces tyrans l'emportaient sur nos efforts républicains. Mais ils ont des talents, des vertus et du caractère. Voilà leur crime. Comment prouver d'autres? Et je serai la première à faire leur procès. Hélas, à peine je peux concevoir ce que je vois après ce que j'ai entendu. Oui, j'ai entendu des hommes semblables à cet odieux du Mourier combattre mon républicanisme, me dire qu'il était impossible qu'il se soutient en France qu'un roi, un protecteur, un maître en un mot, était indispensable à la turbulence française. Et je vois ces mêmes hommes acharnés à traiter de factieux les sages de la République. Comment est-il possible de prêcher avec véhémence ce qu'on ne pense pas? Comment peut-on, avec autant d'audace, tromper le peuple et mettre sur le compte d'autrui les résultats de ses propres crimes? Si ces hommes dominent, c'en est fait de la liberté et de l'égalité. La tyrannie s'avance à pas de géant par nos dissensions. Citoyens, vous pouvez me donner la mort. Mais vous vous rappellerez malgré vous mes prédictions et mes vertus civiques. Il est temps de faire l'énumération de mes legs qui ne seront peut-être pas indifférents à la société et dans lesquels je me permettrai un peu de cette gaieté que j'ai toujours mise dans tout ce qui me concerne. Je lègue mon cœur à la patrie, ma probité aux hommes, ils en ont besoin, mon âme aux femmes, je ne leur fais pas un don indifférent, mon génie créateur aux auteurs dramatiques, il ne leur sera pas inutile, surtout ma logique théâtrale aux fameux chéniers, mon désintéressement aux ambitieux, ma philosophie aux persécutés, mon esprit aux fanatiques, ma religion aux athées, ma gaieté franche aux femmes sur le retour et tous les pauvres débris qui me restent d'une fortune honnête à mon héritier naturel, à mon fils, s'il me survit. Quant à mes pièces de théâtre, en manuscrit, on en trouvera quelques centaines, je les donne à la Comédie française. C'est par son art magique et sublime elle croit, après ma mort, mes productions dignes de figurer sur son théâtre, c'est assez lui prouver que je rends justice à son talent inimitable. J'aurais voulu, avant ma mort, laisser un extrait d'une vie bien intéressante par la bizarrerie de mon étoile depuis ma naissance. Mais si le sort a destiné à mes jours une fin prompte et glorieuse, je laisserai à deviner aux hommes sensibles, s'il en est encore, ce que peut avoir éprouvé une victime du fanatisme qui avait des droits à la fortune et au nom d'un père célèbre. français. Voici mes dernières paroles. Écoutez-moi dans cet écrit et descendez dans le fond de votre cœur. Y reconnaissez-vous les vertus sévères et le désintéressement des républicains? Répondez. Qui de vous ou de moi chérit et sert le mieux la patrie? Vous êtes presque tous de mauvaise foi. Vous ne voulez ni la liberté, ni la parfaite égalité. L'ambition vous dévore. Et ce vautour qui vous ronge et vous déchire sans relâche vous porte au comble de tous les excès. Peuple aimable, devenu trop vieux, ton règne est passé si tu ne l'arrêtes sur le bord de l'abîme. Jamais tu ne fus plus grand, plus sublime que dans le calme majestueux que tu sus garder au milieu des orages sanguinaires dont les agitateurs viennent de t'environner. Rappelle-toi qu'on peut te rendre les mêmes pièges. Et si tu peux conserver ce calme et cette auguste surveillance, tu sauves Paris, la France entière et le gouvernement républicain. C'est toi, Danton, que je choisis pour le défenseur des principes que j'ai développés à la hâte et avec abondance de cœur dans cet écrit. Quoique nous différions dans la manière de manifester notre opinion, je ne te rends pas moins la justice qui t'est due, et je suis persuadée que tu me la rends aussi. J'en appelle à ton profond discernement, à ton grand caractère. Juge-moi. Je ne placarderai pas mon testament. Je n'incendierai pas le peuple de Paris, ni les départements. Je l'adresse directement et avec fermeté aux Jacobins, aux départements, à la commune, aux sections de Paris, où se trouve la majorité saine des bons citoyens, qui, quels que soient les efforts des méchants, sauvera la chose publique. Signé Olympe de Gouges, ce 4 juin 1793, l'an deuxième de la République française.
On vient donc d'écouter toute une partie du testament politique d'Olympe de Gouges, à l'émission Ainsi soit-elle. Et voilà, ça finit un petit peu sur cette thématique. Disons que je voulais vous donner un aperçu de la vie et des écrits de cette femme, donc pendant la Révolution française, qui a été guillotinée en 1793, notamment pour ses écrits politiques et puis ses aspects soi-disant contre-révolutionnaires. Donc c'est ça. Je vous invite à lire ses écrits, à lire ce qui a été écrit sur elle. Et puis, si vous voulez réécouter le testament politique en entier, vous pouvez vous taper livre audio Olympe de Gouges, testament politique sur Google, je pense que vous le trouverez. Et puis, sur ce site de livre audio, on peut aussi trouver, par exemple, La morale anarchiste de Pierre Kropotkine ou ce genre d'ouvrage qu'on peut s'écouter quand on est en train de cuisiner, ce qui est très agréable. Voilà, on va poursuivre en musique avec un groupe qui s'appelle Shine O Shy et la chanson s'intitule Human Condition. On reviendra après pour un petit mini calendrier.
Superficial. I find the food too artificial. The human condition is paralyzed. It is not yet known whether there are any survivors. Superficial. I find the food too artificial. I find the people superficial. I find the food too artificial. The human condition is paralyzed. It is not yet known whether there are any survivors. Let's keep calm. This is modern life. It's user-friendly. It's consumer-cool. Let me tell you about it. It's too sex-orientated. It's too power-related. It's too race-segregated. It's too TV audience-rated. It's too micro-oven-wave-catered. It's too politically debated. It's too drugged up. It's too dressed down. It's too over-organized. It's too plastified. Too consumer exotic, too 100% synthetic, too book in advance, too computer friendly, too fashion victim friendly, but that's my life, it's user friendly, so don't worry about that.
Ok, vous êtes toujours à l'émission Ainsi soit-elle. Et le choix des musiques est assez varié, je suis un peu partie dans tous les sens. Voilà, donc je voulais faire un petit calendrier quand même pour clore cette émission. Ça va être un léger calendrier. Je voulais vous inviter à nous rejoindre à l'agité ce soir, puisqu'il y a une discussion ouverte et variée avec on mange, on boit et on profite de ce beau lieu qu'est l'agité ensemble. Donc vous pouvez venir là ce soir, ça a déjà commencé et puis ça dure jusqu'à ce qu'on le souhaite. Il y a aussi un 5 à 7 à la page noire ce vendredi, donc la page noire 265 Dorchester, me semble-t-il, juste avant l'agité. Et puis un 5 à 7 où il va y avoir des lectures en fait du procès des 5. Et puis aussi des personnes invitées qui vont venir, dont Richard Amiot et puis aussi Serge Roy, il me semble, qui vont être là pour le 5 à 7. Donc vous pouvez téléphoner pour me dire si je me trompe, mais je pense que c'est bien ça. Voilà, on va continuer, je pense, en musique. Je vais vous souhaiter une belle soirée et puis donc je vous retrouve à l'agité. Et puis on continue sur une musique un peu plus festive de Lesbians en Ecstasy.
Apology, six extra quantity. Are you listening to me? 400.
Vous avez écouté l'émission Ainsi soit-elle. On se retrouve la semaine prochaine et on vous laisse finir la soirée, continuer la soirée avec Cultivons notre hip-hop.